Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Nous sommes aujourd'hui en direct du comité Mamega pour notre émission mensuelle dont le thème d'aujourd'hui est Aflam, cinéma arabe et cité éducative. Sont présents avec nous aujourd'hui Charlotte De Wert, si je me trompe dans la prononciation, tu peux me reprendre Charlotte, et Samy Chavereau.
Bonjour.
Bonjour.
À l'animation, nous avons donc Lily et Gav, vous m'aurez reconnu. Jean-Marc, qui sirote son café tranquillement et qui n'a pas l'intention de prendre la parole aujourd'hui, à part si je l'y contrains. À la technique, nous avons notre cher ami et fidèle technicien de Radio Galère, Sidi Diallo. Et habituellement, l'équipe du comité Mamega est plus nombreuse, mais en ce jour férié, il faut croire qu'ils avaient d'autres plans. Habituellement, nous avons au sein de notre équipe Karima Berich, qui est notre passeuse de mémoire. Mais bon, ça fait un petit moment que Karima nous a délaissés. Mais comme nous pensons fort à elle, nous allons lui dédier notre première pause musicale avec un morceau intitulé « Enfants de Palestine », une chanson dédiée aux enfants de Gaza.
Dans les ruelles de Gaza, leur rire résonne, les étoiles brillent malgré l'horizon. Leur cœur chante un espoir infini, enfants de Palestine. L'amour les unit. Oh, enfants de la paix, de la liberté, vos rêves s'élèvent comme un oiseau léger. Dans chaque sourire, une lumière se dessine. Vous êtes là, enfants de Palestine. Sous l'olivier, ils trouvent un abri, rêvant de jours clairs, de terre fleurie. Le vent murmure leur secret, leur espoir. Chaque battement de cœur, une étoile dans le noir. Oh, enfants de la paix, de la liberté, vos rêves s'élèvent comme un oiseau léger. Dans chaque sourire, une lumière se dessine. Vous êtes enfants de Palestine. Sans murs, sans chagrin, leur courage brille malgré les épreuves. Leur histoire vit dans chaque rêve. Oh, enfants de la paix, de la liberté, vos rêves s'élèvent comme un oiseau léger. Dans chaque sourire, une lumière se dessine. Vous êtes enfants de Palestine. Liberté, vos rêves s'élèvent comme un oiseau léger. Dans chaque sourire, une lumière se dessine. Vous êtes l'homme, enfant de Palestine. Oh.
Les Échos du Grand Saint-Barthélemy en direct de Radio Galère sur le 88.4. Vous pouvez également nous écouter en DAB+ sur le canal 8C, Jean-Marc. Bon, pour rappel, l'année 2025 est placée sous le signe de l'équité. Une équité envisagée comme une étape essentielle vers l'atteinte d'une véritable égalité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités engagés dont la présence parmi nous en ce week-end prolongé de l'Ascension témoigne d'un réel engagement militant. Un grand merci à Charlotte et Samy d'avoir répondu à notre invitation. Nous n'oublions pas non plus d'adresser nos remerciements chaleureux à notre ami Sidi. Ouais, parce que Sidi, il a choisi de ne pas faire le pont et d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Sidi.
Je vous aime.
Donc, pour le comité, l'objectif de cette émission est de mettre en place les actions portées par l'association AFLAM, qui œuvre depuis plusieurs années à promouvoir les cinémas arabes comme outil d'expression, de transmission culturelle et d'engagement social. Nos invités ont beaucoup à partager avec nous. Ils vont tout d'abord se présenter, puis nous parler de cette fameuse association qui est AFLAM.
Ok, ça marche. Bah oui, c'est vrai que les ambitions d'AFLAM sont vastes. Et pour, comme tu viens de le proposer, bah déjà merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être au comité Mamega par cette belle journée avec vous. Et puis, dans mon cas, Charlotte, j'ai rejoint AFLAM depuis maintenant une petite dizaine d'années. D'abord comme bénévole, et puis quand l'occasion s'est présentée, j'ai occupé le poste de médiation culturelle pendant 6-7 années. Et au fur et à mesure des années, j'ai découvert d'autres fonctions dans la structure, comme la programmation, notamment pour le festival. Et maintenant, je me concentre sur les activités principalement de la cité éducative.
Et rebonjour, moi c'est Samy Chaveroux. Et voilà maintenant 4 années que je travaille ponctuellement avec AFLAM sur des ateliers. Donc on parle d'éducation populaire à l'image, d'éducation à l'image. Donc je travaille avec des enfants, avec des classes d'école primaire, avec des collégiens, des groupes transgénérationnels, entre guillemets, pendant les vacances. Donc l'idée est toujours de fabriquer du cinéma, faire du cinéma avec des groupes situés. Donc voilà, ça fait désormais 4 ans que je travaille avec AFLAM, qui a développé la possibilité de faire des ateliers dans le quartier de la Busserine. Et donc, désormais, on y reviendra un peu plus tard avec la cité éducative, qui est une sorte de financement. Nous avons pu entrevoir des choses un peu plus en grand et pouvoir créer des cycles narratifs, des cycles de création cinématographique qui parlent du quartier, qui parlent aux enfants et qui finalement, à force de travail, laissent depuis 3-4 ans une petite expérimentation cinématographique sur l'interprétation de l'histoire du quartier et laisser libre cours à l'imagination, donc l'imagination des premiers acteurs, à savoir les enfants avec qui on travaille. Donc voilà, on fait des ateliers dans ce joli quartier et on en est très heureux. J'en suis très très heureux, le premier quoi.
Merci Charlotte et merci Samy. On reviendra effectivement un petit peu plus tard au cours de l'émission sur la cité éducative. Je sais que Jean-Marc, il s'interroge, AFLAM, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça s'appelle AFLAM ? Donc, Charlotte, je te laisse peut-être lui répondre.
C'est bien parce qu'on dirait qu'il y a cette présence de Jean-Marc qui ne s'exprime pas, mais qui est là comme une forme subtile. AFLAM, en fait, effectivement, souvent je fais la blague quand je fais une intervention, en particulier avec les plus jeunes publics, mais ça marche à tout âge, de dire que c'est pas un acronyme Association française pour libérer, je sais pas, l'art. C'est FLM, donc c'est le mot arabe qui veut dire film au pluriel. Et voilà, ça c'est pour la signification, donc c'est film au pluriel.
Je lui ai dit, mais il a insisté.
Ok, après il y a peut-être quelque chose à signaler tout de suite, c'est que l'identité dite arabe, c'est une façon de présenter la proposition, mais ça ne se veut pas du tout restrictif et c'est un petit peu même pas forcément adapté pour toute la région qu'on couvre. Donc en fait, l'idée, c'est cette association, elle existe depuis une vingtaine d'années. Elle a été fondée au début des années 2000 à Marseille, dans l'idée de faire connaître, faire circuler les cinématographies des pays arabes. Mais pour autant, bien sûr, dans la région, par exemple, du Maghreb, il y a toute une communauté qui est berbérophone, dont la langue, c'est l'amazigh. Pareil au Proche-Orient, il y a des communautés qui sont kurdophones, etc. Il n'y a pas que la langue arabe. Et puis même cette langue, elle est tellement riche par ses dialectes que quand un Saoudien ou un Qatari rencontre un Marocain, c'est pas dit qu'ils vont se comprendre. Parfois même, moi j'ai assisté à des scènes où ils vont switcher en anglais parce que ça supposerait d'avoir la langue classique comme langue commune. Donc nous, la démarche, c'est on a cette étiquette, mais c'est aussi de jouer avec les lignes. Donc c'est de montrer des films arabes, mais pas que arabes. C'est de promouvoir le plurilinguisme. Et puis aussi, avec le temps, de s'adapter avec la réalité du vécu de ces régions, de cette région. C'est-à-dire aussi que maintenant, à cause de la situation dramatique aussi qu'a traversé la région du Proche-Orient, que ce soit d'abord la Syrie, avant ce à quoi on assiste en Palestine occupée et à Gaza, c'est le fait qu'il y a beaucoup les phénomènes de diaspora, de circulation, quand c'est possible pour les gens de partir. Et donc il y a aussi tout un... Dans la sélection du festival, les artistes qui sont sélectionnés dépassent largement les frontières des pays arabes. Et il y a à l'heure actuelle beaucoup de ces artistes qui vivent à Berlin, par exemple, ou dans d'autres capitales européennes, qui se sont réfugiés. Et voilà. Donc il y a aussi le cinéma de diaspora.
Très bien, je te remercie Charlotte, parce que justement tu nous as un petit peu anticipé notre question sur le festival. Est-ce que les films étaient uniquement issus du Maghreb? Tu as très bien répondu à nos interrogations. Le public qui participe au festival, quel est-il?
Alors le public, du coup, c'est ça, c'est que l'association, comme elle a plusieurs activités, elle a le festival qui est un peu le temps fort de l'année, qui se fait en coproduction avec le MUSEM. Donc les dates bougent un petit peu selon les agendas de l'institution aussi, mais en gros c'est au printemps. Cet événement, il est lié avec les autres activités de l'association et notamment un travail de programmation pendant l'année. On appelle ça les écrans d'aflamme. Bon, selon les subventions, selon les moyens de l'équipe, on peut offrir un programme nourri, et des fois il y a des années où on a une proposition qui est un peu plus ramassée sur quelques semaines, quelques séances. Mais le principal, c'est qu'il y a des ateliers pendant l'année, des liens avec les publics tout au long de l'année. Il y a aussi des collaborations ponctuelles avec les cinémas ou d'autres festivals, ce qui fait que quand vient le festival, on arrive à réunir plusieurs personnes, que ce soit les cinéphiles, les gens un petit peu du milieu qui peuvent donc profiter aussi des rencontres professionnelles qui s'organisent en parallèle, mais aussi les jeunes. On a cette démarche évoquée par Samy tout à l'heure avec les écoles, les collèges, les lycées. Et puis, il y a quoi d'autre comme public auquel... Il y a aussi les étudiants en cinéma avec qui on tisse des liens. On fait pareil un atelier avec la classe prépa cinéma de Marseille Vert, qui a ouverte il y a 2 ans. Ça permet à une trentaine de jeunes, pendant le festival, d'être très impliqués, de faire des interviews avec les réalisateurs, réalisatrices. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mélanger tout un tas de personnes qui, sinon, comme le disait souvent dans les éléments de communication, des gens qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer autrement et qui, pendant le festival, peuvent se côtoyer.
Aujourd'hui, selon vous, quelle place occupe Aflamme sur la scène marseillaise, voire au-delà? Vous vous cantonnez rien que sur la cité phocéenne ou vous allez au-delà projeter ces différents films afin de rencontrer d'autres personnes et sensibiliser aussi à la culture d'autrui?
Quelle place on occupe, oui, ou quel rôle on joue,
quel rôle, oui.
Tu m'aideras, parce qu'en plus, toi, c'est vrai que tu as fait de la communication pour le... Donc, tu sais aussi... enfin, tu as eu un regard sur aussi la façon dont... Le projet d'Aflamme, je pense qu'il occupe maintenant, parce que le festival, on a fêté les 10 ans il y a 2 ans, donc c'était la 12e année cette année. Il est né en 2013, au moment de l'année culturelle, etc. Ça a permis à cette association de se hisser avec une proposition de festival qui, entre parenthèses, est quelque chose aussi qui s'est inspiré de la biennale qui était proposée à l'Institut du monde arabe à Paris.
D'accord.
Donc il y avait déjà des liens et une première proposition pendant les années 2000 qui existait. 2013, le festival est lancé. Je pense que voilà, au bout de cette décennie, parce qu'il y a toujours eu aussi l'envie d'aller faire des itinérances, il y a quelques cinémas à Bouc-Bel-Air, le cinéma aussi du côté de La Ciotat, l'Institut de l'Image à Aix. Il y a comme ça des liens qui sont à Fort-Calquier aussi, le Festival de Cérocal des Alpes de Haute-Provence, avec lequel on a fait des collaborations. Donc, avec les moyens du bord, sur la base aussi de la disponibilité des artistes, on essaye de faire toujours cette démarche d'itinérance. Je pense que c'est à la fois bien identifié et en même temps, ça mériterait... C'est pas non plus un programme très intense.
Pour reprendre la question de Lily, donc je me permets de me mettre aussi dans le rôle de l'intervieweur. À Flamme, c'est créé vraiment dans les années 2000 et je te repose la question. Qu'est-ce que ça vient occuper comme espace? Bien sûr, c'est pas toi qui l'as créé, tu n'es pas membre fondatrice, mais on côtoie...
J'étais à peine née.
À peine née, voilà. Mais qu'est-ce qui est venu combler ou quelle place est venue prendre à Flamme au tout début de son projet culturel, avant même que le festival naisse, comme tu l'as bien dit, en 2013? Quel était le constat, en tout cas, qu'ont fait les fondateurs ou autour de l'idée de la diffusion des cinémas arabes?
Oui, c'est vrai. En fait, effectivement, au départ, cette association, elle venait jouer un rôle qui, je pense, devait être donc d'intérêt général, mais aussi, on l'espérait, ponctuel. C'était l'idée de combler un manque dans la diffusion des cinématographies des pays arabes, en constatant que ce soit dans les chaînes commerciales et aussi dans les festivals, c'était des films qui étaient peu représentés. Ça a un peu bougé. Il y a quand même maintenant, la dernière édition du Festival de Cannes le prouve. Il y avait 3 ou 4 films, c'est le cas ces dernières années, qui étaient dans la sélection, la compétition officielle, qui viennent des pays arabes. Mais il y a 20 ans, au tout début, c'était des cinémas qui étaient quasiment pas représentés. Et puis, il y avait un amalgame, une confusion. Il y avait une sorte de courant dit cinéma de banlieue. En fait, aussi... derrière l'idée de cinéma arabe, c'était une étiquette qui s'appliquait à tout et un peu n'importe quoi, enfin dans le sens.
Oui, quand on le sait, culture dominante, culture dominée, ça s'applique dans tous les domaines, donc ouais. Également dans le domaine du cinéma, visiblement. Il y avait une question aussi qui, moi, je connais la réponse parce que j'ai pas participé au festival La Flamme, Jean-Marc, contrairement à toi. La projection des films, elle se fait en version originale, sous-titrée, ou elle se fait en version française?
Ah ouais, bonne question. Il n'y a pas longtemps, dans le ciné-club, on en parlait là, au collège Pythéas, tous les films d'Aflam, ils sont présentés, j'allais dire évidemment, mais ça, c'est pas forcément si évident, ils sont montrés en version originale sous-titrée. Et c'est effectivement très important, parce que l'idée, je pense, ça c'est peut-être, on rentre davantage dans le... En tout cas, personnellement, je vais maintenant parler plus à mon nom que de faire... de parler au nom de l'association. Je pense que c'est vraiment ce qui est très fort et important avec cet outil qui est cette association, c'est le fait de pouvoir donner à entendre et à découvrir des langues qui sont trop peu apprises, maîtrisées, valorisées. Récemment, on a montré un film qui s'appelle Mauvaise Langue. Justement, c'est un réalisateur libanais, son nom va me revenir, qui a réalisé ce documentaire. Et il fait le constat de dire, en fait, en termes de nombre de postes qui sont créés dans l'éducation nationale, chaque année, on est à un quota qui est vraiment dérisoire, qui correspond à l'enseignement des langues rares. Or, la langue arabe, les dialectes arabes, ils sont loin d'être une langue rare, c'est la deuxième langue parlée dans ce pays. D'où l'intérêt, en fait, aussi de lui redonner de la place. Et c'est pour ça qu'on tient particulièrement à ce que les films soient présentés en langue originale. Après, on fait un travail de traduction. Pour chaque édition du festival, une fois que les films sont sélectionnés, dans l'étape, on les reçoit, on les visionne, etc. Il y a aussi une économie, et ça permet à ces films de circuler et d'avoir des sous-titres et ensuite de pouvoir être montrés ailleurs.
Je te remercie, Charlotte. Comme Jean-Marc, tu le disais, sa présence avec subtil. Nous.
Subtil, je ne sais pas.
Tel un fantôme dans la pièce. On va faire une petite pause musicale avec un morceau de Férouz intitulé « Libéroute ».
Ouais, Beyrouth.
Libéroute. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي قنديدها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct de Radio Galère sur les... voilà, parce que c'est ça quand on lit pas, quand on sait pas lire. Sur les ondes de Radio Galère, vous pouvez nous retrouver au 88.4 sur la bande FM et nous sommes toujours en compagnie de nos invités Charlotte et Samy. Donc je vous rappelle que le thème de l'émission d'aujourd'hui est « À flamme, cinéma arabe et cité éducative ». Et on va vous poser la question maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au cinéma arabe? Qu'est-ce qui vous a touché, vous interpellé dans cet univers?
La façon dont je suis arrivée à collaborer avec Aflam, c'était par des amis communs. En fait, j'en ai entendu parler quand j'étais en Égypte à l'époque. Donc, avant de rejoindre l'association, j'avais fait de la recherche en histoire, l'histoire sur la ville d'Alexandrie au 19e, début 20e siècle. Donc j'étais partie faire une année d'études linguistiques et puis je suis restée un peu plus là-bas. Et puis à cette époque, j'ai entendu parler de Aflam et j'avais un ami qui était recruté pour faire une année de travail dans l'association. Et c'était en 2010, avant la Révolution. Donc à cette occasion, quand je suis revenue à Marseille, j'ai découvert la structure. Elle avait des tout petits bureaux, ben, c'était avant 2013, c'était l'époque où c'était vers les réformés dans la rue Consola. Un ancien petite boutique de coiffeur, vraiment un truc de 25 mètres carrés, avec la super équipe de Catherine Lestrade, entre autres, qui pilotait le... Et voilà, et j'avais gardé dans un coin de ma tête que c'était une structure fort intéressante. En étant moi-même engagée dans les études sur les mondes arabes, musulmans, sémitiques, voilà. Je me disais, tiens, il y a un pendant artistique. Et après la Révolution, j'en parle comme un moment un peu clé, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi l'idée que l'art et la culture, en fait, peut avoir un rôle très fort, très puissant. Moi, personnellement, ça m'a fait aller vers Aflam, c'était aussi m'éloigner de l'académie, sortir de l'université. Donc c'est cette réflexion-là qui m'a nourrie. Et dans les années qui ont suivi, quand je suis revenue écrire ma thèse, que je donnais mes premiers cours à l'université à Aix et ensuite à Paris, à l'INALCO, ben j'essayais de garder du temps pour découvrir l'association et être bénévole. Et plus j'ai fait ça, plus j'ai aimé. Donc ensuite, quand j'ai pu rejoindre à plein temps, je l'ai fait. C'est de cette façon. Donc pour peut-être le reformuler, c'est l'idée... d'utiliser le cinéma comme un médium pour toucher un maximum de gens.
Très bien, Charlotte. Donc,
oui, plus jamais pour suivre. Alors, ne serait-ce que dans ton parcours depuis que tu as Aflam, quel réalisateur ou réalisatrice qui t'aurait le plus marqué, par exemple, dans le cadre des films arabes là, que tu as dû pouvoir...
J'en cite deux, t'en cites aussi, Samy, parce que toi aussi, t'as ton regard sur...
Samy, il est en retrait aujourd'hui, il a décidé de m'accompagner dans mon rôle de présent.
Ouais, je me retrouvais à être un peu la mémoire de la structure. Moi, ce qui m'a touchée, énormément, en fait, il y en a tellement, et je dirais que là, récemment, le travail de Kamal El-Jafari, qui est un cinéaste... fort intéressant dans sa démarche et tout, palestinien qui vit exilé en Allemagne, je crois, et on a fait une petite rétrospective autour de son cinéma. Bon, j'invite tous les auditeuristes à aller sur le site et à regarder cette rétrospective de Kamal. En plus, beaucoup de ses films sont faciles à trouver en ligne, et c'est quelqu'un qui manie l'archive. En fait, il fait des films sans tourner, il utilise... Il fouille tout le patrimoine existant et aussi les images qui ont été tournées par les Israéliens pour poser la question de la place des images dans la fabrication de son identité et de sa mémoire. C'est un cinéaste passionnant. Mais par exemple, pour citer complètement autre chose, j'ai découvert le film de Assia Djebar, Les femmes du Mont Chenoua. Je pense que c'est une des premières... documentariste algérienne qui a fait ce film, me semble, au début des années 70. Et ça raconte l'histoire de l'Algérie pendant la période de la guerre civile d'indépendance. Voilà, et au milieu de ces deux artistes, et Assia Djebar étant par ailleurs une écrivaine, enfin, elle est quelqu'un de très prolixe, il y a aussi, par exemple, Medondo, qui est un cinéaste mauritanien qui a fait toute une partie de sa carrière en France, et qui a une œuvre mais passionnante qu'on connaît peu, dont on a tellement besoin pour affronter les enjeux de notre présent. Il a fait des propositions alternatives de façon de raconter l'histoire, de donner, c'est même pas de donner la parole, il ouvre les espaces d'expression. Et je sais pas si j'en parle bien, mais en tout cas, rien que de dire ces noms-là, c'est...
Non, mais en tout cas, pour Medondo, par exemple, qui sort de l'espace... culturel, avec mille guillemets, qu'Aflam, sur lequel Aflam travaille en réalité, qui est l'espace arabophone, plus que Moyen-Oriental, Maghreb, Machrek, c'est vraiment l'espace arabophone, puisque tu dis l'enjeu du cinéma, c'est la langue, et donc la langue comme enjeu langagier, donc c'est l'arabe en tout cas, et ses dialectes, et aussi et la mazir, enfin bon, bref.
Et c'est mouvant, ouais.
Et c'est mouvant, ouais. Et donc, mais Dondo sortait un peu de cette ère culturelle habituelle, et par contre, Aflam essaye de s'engager. Alors, je ne sais pas si c'est ces dernières années, mais sur quelque chose, sur une proposition aussi qui est fondamentale, qui n'est pas que pour le cinéma, mais en tout cas qui doit être un horizon politique dans l'activité de cette association et dans le festival, et pour ses actions aussi d'atelier cinéma, c'est finalement le projet, alors je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais une forme de projet décolonial. Et donc, Medondo, c'est un choc quand apparaît Medondo sur les écrans d'Aflam. Il y a 5 années, que tu programmes toi, Charlotte, et apparaît un cinéma qui remet en scène en fait les articulations de la conquête coloniale, qui permet de créer aussi une historicité, en tout cas une mise en scène historique très singulière sur l'histoire de la colonisation des Antilles. Bon, là, Flamme commence à évoquer la question des Antilles, alors qu'initialement, on s'inquiétait de la diffusion des cinémas arabes. Donc on voit que ça nous a amené aussi dans une autre réflexion. La programmation de ce cinéaste qui part de la Mauritanie, qui fait un film sur une reine nigérienne au temps de la conquête en 1880 par des généraux français du Niger qui devient empire colonial français, pour ensuite arriver sur l'histoire de la colonisation aux Antilles, ça, c'est une programmation qui en fait est une clé, presque une nouvelle étape, une nouvelle lecture de ce que peut Aflam comme projet culturel et éventuellement politique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est s'il y a des cinéastes, en tout cas, qui permettent aussi de passer à une autre étape de ce que peut le cinéma ou la question de la programmation. Mais Dondo, je trouve que dans le projet d'Aflam a été un vrai passage à autre chose, un vrai passage à un autre discours. Voilà. Plutôt que la représentation gentillette qui s'affranchit d'un discours politique. Avec Medondo, on est arrivé frontalement à la question d'un discours politique et on l'a assumé.
Ça me fait penser à Sam Ben Usman, que vous connaissez probablement. Ouais. Il avait fait notamment un film concernant le massacre de Charoy aussi. Donc il a fait pas mal de films très très progressistes pour rappeler un peu, évoquer cette histoire de la colonisation, ne serait-ce que dans le cadre de son pays, bon, qui est le Sénégal. Ceci étant, comment se fait aussi votre programmation? Il y a le festival, il y a le choix des films. Cette programmation se fait, c'est-elle, sur combien de temps? Parce que ce n'est pas évident, parce qu'il doit y avoir un afflux de films que vous devez recevoir, de propositions et autres. Comment faites-vous ce choix et comment s'articule-t-il?
Ben, y a une personne en particulier qui porte la programmation du festival, c'est Mathilde Rouxel, qui nous a rejoint depuis 2020. Et donc, c'est une programmation qui se veut collective, collégiale. Il y a plusieurs personnes qui échangent sur le choix de ces films. C'est à la fois un appel à films qui est lancé, diffusé, relayé par les réseaux, dans les pays arabes, par des personnes, par des institutions. On essaye de faire en sorte que un maximum de personnes soient informées de cet appel. Il y a des maisons de production dont c'est le boulot aussi d'envoyer les films, des maisons de distribution qui nous envoient aussi les films. Donc c'est à la fois l'appel, le bouche à oreille, si on peut dire, les liens établis d'année en année qui font que les gens ont identifié, ils envoient leurs films. Une fois reçues toutes ces propositions, il y a une phase de visionnage qui s'étale sur 3 à 5 mois. Bon, jusqu'au bout, on continue de visionner, mais voilà, on est tenu quand même d'anticiper, surtout parce qu'il y a une partie de la programmation qui se passe au MUCEM. Donc on a aussi les délais du musée qui sont... Il faut anticiper les choses. Donc ce visionnage permet finalement de dégager des consensus. Il y a des films qu'on a vraiment envie de défendre, mais qui ont des fragilités. Il y a d'autres films qui sont parfaits dans leur forme, mais par exemple, on ne s'y retrouve pas avec La Ligne d'Aflam. Donc c'est vraiment toute une histoire de discussion, de choix, d'orientation. Et dans le festival, il y a un volet particulier qui est donc qui touche au film, au cinéaste dont on a parlé, que ce soit Assia Djebbar, Medondo, Kamel Al-Jafari. C'est tout un volet autour du cinéma de patrimoine. Mais sinon, l'autre partie, et peut-être la majorité des films, c'est la nouvelle création. Donc on est attentif aussi à retrouver des nouveaux auteurs, aux nouvelles autrices qui émergent, et puis, ou de suivre des jeunes réalisatrices au fur et à mesure de leur parcours. Quand c'est leur deuxième, troisième film, on est content de les retrouver et de les inviter dans le festival.
Donc ce choix de programmation, j'entends bien, Lily posait la question de savoir s'il y avait un message aussi politique, social. Il y a Samy qui évoquait l'idée de la décolonialité, en quelque sorte. Est-ce que cela s'inscrit un peu dans cette idée-là, sachant qu'il me semble que cette année, dans le cadre de programmation MUSEM, il y a quelqu'un que nous apprécions, les veilleurs de conscience et autres, qui est Franz Fanon, entre autres. Mmh. Alors, qu'en est-il? Bon, est-ce que c'est un projet aussi politique, social, ou les deux? Comment voyez-vous un peu la diffusion, la projection de ces films?
Oui, je pense effectivement que ce serait intéressant de voir dans le temps comment ça a évolué. Et je rejoins Samy qui pointait peut-être une forme d'engagement accentué ces dernières années. Moi, j'ai un peu envie de dire, est-ce qu'on a le choix, en fait? Parce que aussi, les assauts sont tellement durs contre le secteur culturel et associatif qu'on ne peut pas juste être dans quelque chose de tiède. On se doit d'être engagé et de se défendre aussi davantage. Mais effectivement, plus qu'un cinéma du divertissement, un cinéma qui voudrait comme ça ramener, réunir, je crois qu'il s'agit de permettre que des voix et des regards qui sinon sont invisibilisés ou pas connus puissent avoir une place, être montrés. Il y a aussi un volet toujours proposé par Mathilde Rouxel dans le cadre du travail Vive Archive, qui est de s'intéresser aux solidarités internationales dans le temps. Du coup, c'est de revenir vers des cinéastes engagés des années 60, 70, des allées et venues. Alors, c'était aussi bien René Vautier qui allait en Algérie, quelles images il a rapportées.
Monica Maurer.
Voilà, exactement. Ouais.
Surtout des époques 60-70, ouais. Autant aussi d'une mobilisation, d'un militantisme politique ou internationaliste, avec des crispations très fortes, notamment à l'endroit de la Palestine. La question de l'engagement n'est pas un gros mot. La question de l'engagement chez les artistes est un fait. Mmh. Et notamment chez ces cinéastes qui ont été remontrés, rediffusés, reprojetés, comme tu le soulignes par le travail de Mathilde Rouxel, où la question de la politique et du cinéma font corps. Voilà, vraiment, c'est une petite alvéole, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, alvéole, mais une petite alvéole dans le festival qui est un moment particulier où la question de la politique et du cinéma font corps et sont dépliées le temps de une à trois journées. Mais voilà, c'est très, très dense.
Après, tout est politique parce que même les films La Nouvelle Génération saoudienne... évidemment, elle a moins besoin d'aflamme pour exister. Hein. Elle a les moyens à choisir. Dans le peu de cases qu'on a pour le festival, on privilégiera un film qui a moins de chances d'accéder à du public. Mais n'empêche que même dans la nouvelle création saoudienne, on trouve aussi des films qui, tout en jouant le jeu de l'autocensure, parce que je pense qu'il y a... un pacte tacite aussi pour avoir la manne qui finance ces films de ne pas dépasser certaines lignes rouges. N'empêche que les films qu'on avait présentés montraient que ça disait beaucoup de choses sur des tabous, des formes de domination au sein de la famille, des endroits aussi de rapports de domination. Et puis, juste un point que je voulais souligner, c'est que si le festival il a pour objectif de faire connaître des auteurs qui sont engagés, que ce soit dans des pays en guerre ou des auteurs qui racontent des périodes où il y avait ces luttes communes importantes, le fait est que Aflam, dans ses activités, n'a pas pour autant un discours. On essaye effectivement de bien répondre aux besoins de nos publics, des institutions, et d'être dans l'éveil plutôt, l'éveil, la curiosité, avoir un regard critique, comprendre d'où on parle, qu'est-ce que nous disent les images, etc. C'est plus en fait donner les moyens aux jeunes publics d'avoir un, comment dire ça, d'avoir un recul critique sur ce qu'ils reçoivent dans ces générations qui sont vraiment qui sont submergées d'images du matin au soir. C'est aussi de
pas suffisamment de distance.
Voilà. Oui. Donc il s'agit de faire ça et pas de les enrôler dans des luttes ou je ne sais quoi qui les dépasserait. On est bien aussi conscient que ce qu'on doit apporter nous dans nos ateliers, c'est autre chose.
Mais vous devez rencontrer des réalisateurs qui vivent dans des pays européens ou autres ailleurs, suite à la dénonciation de certains systèmes qu'il y a dans leur pays à travers leurs films. Est-ce que vous en rencontrez avec toutes les difficultés que cela ? Tout le monde sait que nul n'est prophète sans son pays et ça doit être le cas que pour certains réalisateurs. Vous les croisez, vous discutez avec eux et je suppose qu'ils doivent être en souffrance, ne pouvant pas, sachant que leur film ne sera jamais diffusé dans leur pays aussi. Est-ce que vous en rencontrez ? Comment les choses peuvent se passer ? Ça ne doit pas être du tout évident.
Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est une grande majorité, ouais, je pense presque qu'ils peuvent être... Il y en a qui vivent soit en diaspora, qui sont de passage par le festival et qui rejoignent leur ville, que ce soit New York, Berlin, etc. Et c'est le cas, en fait, aussi... Il y a certains réalisateurs, comme tu viens de le dire, qui présentent leur film à Marseille, sachant que leur film ne peut pas être montré dans leur pays, ou bien ils ont beaucoup de doutes sur la possibilité d'organiser ces séances. Récemment, le dernier film qu'on a présenté de Karim Moussaoui, L'effacement, revient sur les années de la guerre civile.
Oui. Les années noires.
Les années de la décennie noire. Et il sait très bien que ce film, voilà, ça peut même mettre en difficulté les lieux de sa projection, en fait. Il y a le festival de Béjaïa en Kabylie qui reste un espace dans le cadre de ce pays-là. Voilà, il y a quelques îlots de projection. Et. Ouais.
Après, il y a l'exil. Politique, puis il y a l'exil économique aussi, je pense. Il fait, bon, je ne veux pas généraliser parce que j'ai pas une connaissance particulière non plus de l'écosystème du cinéma, qu'il soit bon, en Syrie, évidemment, la question elle est évidemment politique, mais il y a aussi la question économique qui se trouve que la France est aussi un endroit où la question du cinéma a été préservée, c'est l'exception culturelle qui permet aussi à des cinéastes, soit aussi francophones, mais à des cinéastes aussi de venir en France ou, comme tu disais, en Allemagne, voilà, dans un système de production qui permet aussi de financer quelques films. Après, il se trouve que, là, je n'ai pas particulièrement cette connaissance-là, mais il se trouve aussi que dans la question de la production et production des films des pays arabes, il y a la question aussi de l'Arabie Saoudite. Toi, je sais que Charlotte t'aime bien en parler, qui est la question... évidemment particulière, mais la question d'un nouveau pôle cinématographique qui est en train de se monter avec le Red Sea Festival, qui sont des endroits peut-être aussi où les cinéastes peuvent... en tout cas, qui sont des pôles peut-être de production ou des pôles de... Je ne sais pas comment dire ça, mais sur la question de la fabrication, de la production du cinéma, qui est d'abord une donnée économique. Mmh. Est-ce que le développement du cinéma arabe, il passe aussi par des gros pôles, un peu des mastodontes comme le Red Sea Festival en Arabie Saoudite qui...
Mais vous ne bénéficiez pas, il n'y a pas de mécènes d'Arabie Saoudite ou de Qatar.
Non, du tout, non. Voilà. Pas du tout. De toute façon, avec les trois bouts de ficelle, les financeurs d'Aflam, ils sont les collectivités territoriales. National, hein, c'est principalement la région principalement, encore, et la ville, et le CNC, ce genre de financeurs. Non, je ne sais pas. C'est vrai que dans les... Tu as bien fait de souligner, Samy, qu'il y a aussi une réalité économique qui pousse les artistes à trouver aussi des espaces et des moyens de... Quand je pense à l'écosystème aussi au Liban, qui se trouve dans un pays qui subit des crises multiples et maintenant l'invasion de son pays par l'armée israélienne, ça a créé aussi des situations où il faut qu'il y ait de la solidarité internationale qui se mette en place, des possibilités de circulation quand c'est possible pour pouvoir créer. Et tu as évoqué le rôle joué par l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai trouvé intéressant les films qu'on avait montrés il y a quelques années. On a reçu quelques films qui sortaient du lot, mais sinon, ça crée quand même massivement des films style la hollywoodienne, quoi. Ils sont dans des films qui sont principalement des gros films, je sais pas, des grosses productions.
Grosses productions, voilà. Ouais, très standardisées avec.
Mais ça vient effectivement, on le voit bien dans les génériques. Avec ce que Doha apporte et AFAC, ça fait partie, enfin, AFAC Arab Film, Arab Found, pardon, for Arab and Culture, ils font partie de ces quelques mannes qui permettent d'alimenter la création dans les pays arabes. Donc voilà, je sais pas s'il y avait une question ou si c'était
non juste non pour... c'était juste pour compléter, pour signaler. Moi je n'ai pas de connaissances particulières, mais c'était pour signaler que voilà, il y a l'exil politique, mais il y a la question aussi de la production, et que apparaissaient donc le Red Sea, le Doha Film Institute et AFAC, qui sont des, oui comme tu l'as dit, des mannes qui permettent aussi aux cinéastes, parce que c'est toujours une donnée économique et matérielle. Donc en fait les films, ils ne sont pas faits juste avec trois bouts de chandelle, il faut bien des endroits pour financer. Et il se trouve que si le cinéma arabe, alors je ne veux pas parler au nom des réalisateurs des cinémas arabes, mais s'il y a des endroits aussi où financer le cinéma, et ces trois points que vient de nommer Charlotte font partie...
Mais tu disais à l'instant dans ta question, Jean-Marc, autour de... Est-ce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui connaissaient l'exil, où il pouvait y avoir... des films montrés paradoxalement chez nous qui ne pourraient pas l'être dans leur pays. En fait aussi, ça me fait penser qu'avec l'évolution rapide qu'on connaît ces derniers mois, ces dernières années, finalement, on n'est pas non plus les phénomènes, la stabilité de la subvention dans le domaine culturel et des festivals, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Ou
pérenne.
Ouais, il y a aussi chaque année... ce que je veux dire par là, c'est que on avait pris l'habitude de penser que la France pouvait être une sorte d'espace stable dans lequel les artistes peuvent venir peut-être pour présenter leurs films, mais on se rend compte qu'en fait il y a des phénomènes d'autocensure. On l'a bien vécu avec le nouveau flamboiement en octobre 2023 en Palestine, à Gaza en particulier. Ça a montré que dans les mois qui ont suivi, il y avait des lignes rouges, des choses qu'on ne pouvait pas programmer. Nous, on a passé un hiver, c'était vraiment très inquiétant, en fait. Là, on peut parler de façon un peu plus tranquille, parce que ça y est, il y a le gouvernement, et en descendant jusqu'au niveau municipal, les gens politiques changent de discours, font un volte-face total. Là-dessus, voilà, ok. Mais c'était pas, voilà, il y a un an en arrière, il y a plein de choses. Bref, tout ça pour dire quoi ? Qu'en fait, les effets de censure et d'autocensure sont des phénomènes qui sont très sensibles et qui arrivent assez vite, et que la coupure entre les pays dits dictature et les pays dits démocratie, ben ça n'existe pas, c'est un continuum. Et il y a beaucoup d'îles, il y a des espaces. D'autoritarisme dans nos démocraties, comme il y a des espaces de liberté dans les pays qui vivent des dictatures.
Vous me permettez de faire une petite pause musicale avec un morceau... Quoi ? Non, Jean-Marc, après. Avec un morceau de Taliani et 113 intitulé « Partir loin ». Tu vas sur les...
Ouais gros,
allez où Joséphine?
Allez, laissez-moi de toi.
Ah bon, c'est comme ça.
Mais aïni
113, Taliani.
C'est bon.
Écoute.
Et un babour.
Partir loin. Moi je suis de Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rimkal, malade mental, plus connu que le Hedge, m'en bas. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahmar, lève-toi et danse.
Ça fait plaisir. Et à Babour, y'a mon amour. Kharjni, m'la misère. Ibeli, l'ani m'habour. Aïtaï, toujours y mar. Marra, biche, mon casse-moi. Fidèle, ça fait longtemps. Et d'un essai, fni, qui je suis.
Débrouillard, je t'annonce, ramène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est codirou, sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maïméga sur les ondes de Radio Galère au 88.4 FM, en direct sur la DAB+, Canal 8, on est d'accord. Merci. Toujours présent avec Charlotte et Samy, on vous remercie encore d'être venus jusqu'à nous.
Avec plaisir.
Et Charlotte, il me semble que tu voulais dire un petit quelque chose pour nous permettre justement de déboucher sur le prochain sujet qui est celui des cités éducatives.
Alors, oui, je voulais dire quoi déjà ?
Tu ne te souviens plus.
On se reconcentre. Tu voulais parler de. Tu voulais parler de.
Ah oui,
je sais pas, cette distinction.
Mais c'est parce que Jean-Marc, tu as prolongé le sens de ta question où tu disais qu'il y avait beaucoup d'amalgames aussi autour de l'islam. Mm-hmm. Donc, quand bien même nous, depuis tout à l'heure, on parle de cinéma, on a beaucoup insisté sur la langue, les dialectes, etc. On sait bien que la majorité des gens continuent de croire que arabe égale musulman, que celui qui dit salam alaikum, forcément il est musulman. Ça ne veut pas juste dire hello. Les gens oublient aussi que la plus grande communauté musulmane, elle est en Asie, en Indonésie, et pas du tout. Mais en fait, le fait est qu'on avance souvent avec des gens qui sont en fait juste qu'on la paraisse des dominants, quoi. Ils ne s'intéressent pas. Ils ne font pas d'efforts, ils mélangent tout, ils vont te parler... Enfin bref, je ne vais pas aller trop dans cette pente. Mais bref, et du coup, non, mais c'est quand même... Moi, ça m'agace, en fait, parce que c'est tout un travail qui n'est pas fait aussi dès le début, dans l'éducation, au sein de l'éducation. Et nous, comme association, on essaye un peu de colmater les fissures ou de venir un peu réparer des choses. Et tout ça pour dire quoi ? Que dans cette période où il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour de la religion, eh bien, notre proposition d'utiliser... Alors, donc ça amène vers les ateliers, effectivement, parce que c'est plus fin et plus profond ce qu'on peut déployer dans les ateliers que ce qui se passe dans une séance de cinéma pendant un festival, c'est rapide. Mais c'est l'idée de proposer un rééquilibrage, à savoir qu'on est inondé d'images sur les pays arabes avec des commentaires qui sont posés sur ces images. Donc c'est ce qu'on peut appeler des reportages, en fait. Il y a beaucoup de reportages qui peuvent montrer les pays arabes avec des gens qui commentent. Alors que nous, ce qu'on propose, ce sont des films qui sont réalisés dans ces pays par les artistes de ce pays-là. Donc c'est tout autre chose. En fait, on a d'un côté des formes de... Comment on pourrait dire ça ? Le travail journalistique, il véhicule un peu des croyances sur les pays, tandis que de l'autre côté, ce qu'on propose avec les films, ce sont des récits. On est de l'ordre de narrations qui sont proposées, qui sont des formes subjectives, très claires, de propositions de films. Donc voilà, dans les ateliers, c'est une des choses qu'on... assez vite qu'on peut croiser quand on commence avec les enfants, c'est de faire la différence entre les reportages, les tout types d'images qui sont produites et la particularité du cinéma.
Voilà, juste pour reprendre 30 secondes, pas plus, mais Peter Watkins, qui est un cinéaste anglais, qui a beaucoup travaillé sur la... Enfin, qui a fait plusieurs films, notamment sur la Commune, sur la question de l'impérialisme américain, a écrit un bouquin autour de la monoforme. La monoforme, c'est un langage audiovisuel qu'il a repéré pour reprendre la question de l'actualité, et aujourd'hui qui se développe à travers les réseaux sociaux, qui est une autre forme aussi, mais la question de comment mettre en scène, comment faire apparaître, comment incarner une idée ou un lieu. Et souvent, la monoforme, c'était une image ne peut pas durer plus de 7 secondes. C'était un principe, je pense que ça doit continuer à exister sous une autre forme, mais c'était un principe de faire apparaître l'image à la télé. Une image ne pouvait pas durer plus de 7 secondes. Après 7 secondes, elle était considérée comme trop longue. Les gens risquaient de s'endormir, donc il fallait construire des images, des montages très, très coupés, avec des bouts de parole très cut, pour pouvoir formuler une idée en 1 minute 30, et à la fin du reportage, c'est terminé. On a une idée sur la Syrie, le Liban, bon bref, voilà. Et généralement avec beaucoup de destruction. Enfin, moi, j'ai souvent regardé le journal d'Arte, qui était un journal un tout petit peu mieux que peut-être le journal France 2, mais n'empêche que c'était la monoforme, on voyait beaucoup de la destruction. Le rôle du cinéma, c'est de faire rentrer de l'émotion, des histoires individuelles, des histoires qui sortent de ces sentiers-là, de la représentation audiovisuelle, qui aujourd'hui a dépassé le simple fait de la télé, qui intervient plus largement sur les portables, et donc voilà. Donc le cinéma a ce rôle de défense, de langage par l'image et par le son, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est le son.
Merci Charlotte et Samy. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous mettez en œuvre au sein de nos quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment à travers les ateliers que vous menez dans le cadre des cités éducatives ?
Bon, peut-être, je pense qu'on va peut-être te laisser parler, Charlotte, au moins pour...
Non, mais Samy, t'as décidé de faire ton Jean-Marc, là.
Non, voilà.
Les deux,
on est attachés au plafond et on plane. Non, c'est juste, je pense, Charlotte, c'est intéressant.
Tu peux mettre un peu de contexte, si tu veux.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ben, en fait, oui, depuis plusieurs années, on intervient, on a noué des amitiés, en fait... Moi, ça a commencé avec le centre social Agora. On se remémorait tout à l'heure avant l'émission, Lily, quand est-ce qu'on s'était rencontrés. C'était, ouais, centre social Agora, côté de la gare Picon-Busserine. Et puis, donc avec Rania, qui depuis a pris la direction, et aussi Virginie Armelin. Et puis, après, on s'est connus en 2019, à l'époque où toi, tu travaillais pour Sheba. Etc. Il y avait des ateliers comme ça de programmation, ça permettait de se revoir toutes les deux semaines, de voir des films et de voter ensemble sur plusieurs mois, de faire un parcours. Et dans la continuité, on a eu un petit financement du bailleur social Logirem qui nous a permis pendant, je ne sais pas, 2-3 ans, pendant le Covid, jusqu'à ce qu'il y ait les cités éducatives qui soient mises en place, d'avoir cette activité. Donc ça venait doter d'un petit budget pour qu'il y ait une artiste qui soit avec nous. Et notamment, il y avait Katia Saleh, qui est réalisatrice libanaise installée à Marseille, qui venait, qui adore à chaque fois faire des propositions de création aussi, parce que moi-même, je ne suis pas cinéaste, contrairement à Samy, qui, lui, peut faire des propositions de création avec les enfants. De mon côté, c'est autre chose, c'est plus des ciné-clubs, etc. Et bref, donc, ça fait maintenant 4 ans, je pense, qu'on participe à la Cité éducative. Donc, c'est à la fois des propositions de programmation et d'ateliers de réalisation. Il y a aussi des ciné-clubs, ciné-débats. L'idée, c'est de construire ensemble, de créer un lien entre les artistes et les enfants, les jeunes, ou bien les parents aussi, parce que j'ai personnellement, moi, je m'occupe d'un atelier qui est conduit au sein du groupe scolaire Vessière, avec un groupe de parents. Depuis plus d'un an maintenant, on se réunit très souvent. Et voilà, l'idée, c'est de, au fil d'un atelier qu'on fait sur place, de proposer une création collective et puis de partager ensuite la restitution à la fin. Et on a eu plusieurs thématiques, en gros, et après je te laisse, Samy, préciser davantage ce que tu fais dans les ateliers de création. On est parti d'une première thématique qui était plus environnementale, parce qu'on était amoureux du quartier avec ses collines, ses balades, ses espaces de jardin, etc. Donc l'idée, c'était partons faire des balades ensemble. Puis il y avait aussi le travail de Hichem, de l'ADAP 13, autour des abeilles. Donc on était aussi enthousiastes par ces démarches et on se disait qu'on pouvait se retrouver à des endroits. Donc voilà, des balades cueillettes, des propositions en plein air. Parfois des super propositions avec pas trop de participation, selon les aléas du calendrier, de la façon de bien toucher les publics. On tâtonne, quoi, comme souvent. Et depuis 2 ans, on a avancé davantage sur explorer l'histoire mémorielle. Donc c'est particulièrement pertinent d'être ici et là quand on en discute, parce que vraiment le collectif Mamega est un phare qui brille et qui nous a inspiré beaucoup. Et voilà, et ces 2 dernières années, on a travaillé autour de la thématique aussi des héros et héroïnes pour valoriser des personnes qui étaient peut-être pas trop connues par les jeunes de leur entourage ou de leur quartier, dans l'idée qu'ils puissent eux-mêmes faire des propositions d'écriture et de récits qui mettent en valeur des qualités qu'ils possèdent et que autour d'eux tout le monde possède. Enfin.
Bon voilà. Mais en tout cas, pour dire concrètement les choses, c'est que effectivement on est attaché à des thèmes, mais l'idée c'est que le cinéma, on n'est pas là non plus pour respecter des cahiers des charges thématiques où il faut explorer du point de vue très pédagogique un thème. Le cinéma doit se faire de manière pédagogique, mais l'idée aussi c'est de mettre un peu de folie. Donc quand Charlotte évoque les différents thèmes et les différents espaces qu'on a créés avec la cité éducative, c'est des endroits en fait de création, d'imagination, de mise en mouvement. Donc la première fois quand on est venu vous voir, je me souviens il y a 3 ans, pour parler de l'environnement, on vient pas parler précisément de l'environnement, on vient parler en fait de l'histoire du quartier, de comment le quartier il a évolué, comment la population elle s'est installée progressivement ici, mais tout en questionnant aussi quel était cet espace avant l'installation des grands ensembles et avant les bidonvilles. Donc il y avait toujours cette interrogation, c'était aussi de fabriquer une réflexion très modeste, parce qu'on parle d'atelier de cinéma, qu'on n'est pas dans une perspective académique ni dogmatique, mais on est dans quelque chose où on essaye de mettre Netflix. En mouvement... Comment ?
Ni Netflix.
Ouais. Voilà. De mettre en mouvement par les outils que nous donne le cinéma, donc qui sont des outils très nombreux, en fait, quasi illimités, de mettre en mouvement des histoires, ce que vous faites aussi. En fait, vous avez des activités qui permettent aussi de mettre continuellement cette histoire en mouvement. J'ai vu que, par exemple, aussi à Fond Vert, ils avaient fait un film sur l'histoire de leur quartier. Donc, je n'ai pas encore vu la mise en scène, mais bon, chacun essaye toujours de raconter une histoire et l'histoire aussi de son quartier, de son chez-soi, quoi, enfin, de son histoire. Bon, nous voilà, c'est un peu le leitmotiv qu'on s'est donné depuis ces, que la cité éducative, qui est ce financement étatique, voilà, des collectivités, qui est quelque chose qui très probablement disparaîtra dans une ou deux années, se laissera une sorte de souvenir. Voilà, l'État était là pour financer quelques activités culturelles et disparaît peut-être après, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais voilà, ça a permis en tout cas à Flamme, à cette structure, de continuer à travailler. Dans ces ateliers, ce qu'on appelle éducation populaire à l'image, mais en tout cas voilà, de fabriquer du cinéma avec des enfants, avec des plus jeunes, des moins jeunes, maintenant avec des parents, comme l'a dit Charlotte, voilà, et d'avancer dans un rapport à la cinématographie. Donc ça nous permet de montrer des films qu'on montre au festival, de le montrer dans des plus petits espaces. Donc on a organisé aussi des ciné-clubs au cinéma Le Merlan, on a tenté plein de choses avec la cité éducative. Mais aussi, voilà, de laisser des traces qui sont des traces de mise en scène, c'est-à-dire des films. On a réalisé, je crois, depuis la cité éducative, 4 ou 5 films avec des groupes d'enfants autour de la mise en scène de l'histoire du quartier. Donc toujours en prenant un premier fil, qui est l'histoire environnementale, pour arriver à une mise en scène sur comment les habitants sont arrivés dans le quartier. La question de l'abeille dont tu parlais avec Hicham, c'est pareil. L'abeille, c'est un principe, c'est juste en fait une locomotive, une voiture pilote qui nous permet d'aller découvrir la vie dans le quartier, mais de manière mise en scène, de manière burlesque. L'autre point qu'on est en train de faire cette année, qu'on a fait avec vous, donc c'est aussi un des sujets de discussion, c'est la question de comment on appréhende un document littéraire qui est devenu aussi un document historique, qui est le document de Françoise Hégal, « Lettre à une noire ». Nous aussi, on avait envie de travailler sur cette question-là, de ce super roman, qui est un grand roman marseillais, et puis plus largement. Comment on peut le mettre en image, de manière très modeste, en travaillant avec des enfants et leur faire accéder à cette histoire-là. Donc on a trouvé un moyen, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Bon voilà, chaque année, en tout cas, on essaye de réfléchir, que ce soit par les ciné-clubs ou par les ateliers de réalisation ou d'autres dispositifs ou ciné-débats, réfléchir de comment on peut, de manière assez ludique, tout en faisant découvrir le langage cinématographique et la temporalité, le langage cinématographique, par exemple pour la répétition, comment on peut faire aussi avancer sur la découverte d'une mémoire. Alors, ce n'est pas une mémoire figée, mais c'est comment on peut avancer aussi dans la prise en main de nos mémoires. Ouais. Et de manière un peu non dominante, si je peux me permettre. C'est-à-dire avec des outils aussi critiques.
Il me semble que cela me renvoie à certaines lectures telles que Glissant, quand il demande à ce que les mémoires puissent se conjoindre pour les rendre plus fraternelles, il me semble que ce projet-là converge dans cette pensée glissandienne, pourrions-nous dire. Ça me semble être intéressant de pouvoir considérer ce point-là. Puis après, j'ai une autre question, c'est à savoir le public. Quelle est la réception en tant que public enfant-adolescent avec lequel tu as surtout travaillé, voir un peu, ainsi que les adultes, les parents, est-ce qu'ils s'associent, est-ce qu'ils sont sensibles à cela? Et enfin, la dernière question que j'aurais, c'est lorsqu'il y a eu la restitution à l'espace culturel Bussorine, j'ai trouvé très intéressant l'ensemble de ces projections, de ces petits documentaires. Il y en a un qui a semblé beaucoup plus toucher les adolescents, qui est celui de l'intervention du GIGN ou autre.
Canadien.
Tout à fait canadien. Donc que tu puisses en dire deux mots, voir un peu.
Oui, alors je m'avance sur la question et après je laisserai Charlotte en parler, parce que ça renvoie aussi à une évolution de ce qu'a été le projet d'Aflam. C'est-à-dire que Aflam, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais qui fait partie de cette réponse-là, mais qui peut renvoyer à la réponse précédente, c'est que l'idée, c'est que Aflam n'arrive pas tout seul à la Bussorine, avec son bâton de pèlerin, et essaye de parler cinéma aux enfants ou à d'autres. C'est toujours travailler avec les acteurs associatifs, centres sociaux qui sont installés dans le quartier de la Bussorine. Et c'est bien là, enfin, je pense, sans faire de spécificité ou mettre en concurrence les quartiers, mais je crois que la Bussorine, on s'accorde pour dire qu'il y a un réseau assez exceptionnel à travers l'histoire, aussi un engagement citoyen habitant qui fait qu'aujourd'hui se retrouve avec des structures associatives, centres sociaux, avec qui on peut travailler, avec qui le travail est de grande qualité, et il y a beaucoup d'acteurs. Donc au fur et à mesure des années, voilà, Charlotte l'a déjà dit, mais on a travaillé avec le centre social Agora, on a aussi partiellement travaillé un peu avec l'MFA, on a travaillé aussi un peu avec les Flamands, mais on a travaillé avec vous au comité Maméga, Charlotte avait travaillé avec Chebar, avec les établissements scolaires, et je pense qu'on en oublie avec l'ADAP 13. Donc voilà, ce qui fait qu'on a pu travailler avec tous ces acteurs-là, qui nous ont permis aussi, donc pour parler de la réception du public, bah déjà de travailler avec, avec des enfants, des groupes d'enfants que ces structures aussi avaient continuellement en relation. Donc ça nous permet aussi d'avancer dans une relation de confiance, d'arriver avec des gens qui travaillent à l'année, qui sont connus des enfants. Et pour dire, je pense qu'on a eu un rapport très critique de notre travail. Je pense qu'il y a eu un temps où on a envisagé, peut-être parce que le changement de dimension des financements et des projets nous permettait d'entrevoir des choses un tout petit peu plus grandes, et en fait on se rend compte que des trucs qui se portent plus sur la question de l'événementiel, c'est-à-dire mettre beaucoup de choses sur la restitution événementielle, en fait, fait souvent un flop. Enfin, nous, c'est ce qu'on a constaté quand de l'événementiel qui était peut-être mal préparé, mais des grandes balades ou d'un grand week-end qu'on avait imaginé dans une ferme juste à Sainte-Marthe où on avait préparé, ça a fait plutôt flopper. Mais alors qu'un travail minutieux, très proche du terrain et assez modeste, j'ai envie de dire, mais continu, permet en fait d'avoir une relation avec les participants et les participantes qui sont donc majoritairement des enfants, mais Charlotte va parler pour le volet des parents, qui en fait fait que sans trop de fioritures, mais avec un engagement sincère et des dispositifs qui sont pensés à hauteur pour les enfants, avec le langage cinématographique adapté aux enfants, mais en fait ça fonctionne terriblement. Et moi je m'aperçois, c'est pas pour dire moi je, mais que ça fait 3-4 ans que je travaille sur les ateliers et qu'on est en train, entre guillemets, on ne veut pas se substituer à une formation, évidemment pas, mais qu'on est en train de, pas former, mais en tout cas de créer plusieurs générations d'enfants qui ont un appétit pour le cinéma, qu'il avait très probablement avant, mais qu'il entrevoit d'une manière différente aujourd'hui à la lumière des diffusions, des réalisations qu'on est en train de faire. Je le sais parce que, comme je suis régulièrement dans le quartier et que j'évolue entre plusieurs établissements, j'ai le loisir de voir ces enfants qu'on suit, avec qui on travaille dans une école primaire, qui ensuite passe au collège, qu'ensuite on retrouve dans un groupe périscolaire le temps d'un atelier. Et en fait, je vois la circulation des idées, la pétence, l'envie de faire des choses. Donc ça crée un éveil particulier. Et puis en fait, et je m'arrêterai là, il y a du génie en fait.
Oui. Ce que me semble être important, c'est auprès de ces enfants, de ces jeunes qui sont généralement complètement disqualifiés, de retrouver en quelque sorte une estime de soi aussi, ce qui est extrêmement important.
Oui, ouais.
Tout à fait. Et c'est depuis le début qu'on s'est vu cet après-midi, le nom de Fanon revient souvent. Et c'est vrai qu'il y a en fait une démarche qui est... Mais tout simplement, je crois que c'est plus qu'on a une vraie curiosité et un vrai coup de cœur. Que ce soit Samy et moi, on s'est rendu compte qu'on avait chacun grandi aussi un peu à la campagne. Et c'est une partie de Marseille qu'on affectionne parce qu'elle est... c'est vert, on y respire, je sais pas comment dire. Il y a aussi un vrai plaisir de cette partie de la ville d'y venir. Donc, pour dire que c'est pas que des propositions techniques, c'est pas n'importe quel... dispositif de cinéma qui va conduire à ces mêmes résultats, parce qu'il y a le petit plus, c'est que, je ne vais pas dire un truc trop naïf ou quoi, mais allez, osons être un peu sentimental, mais il y a un peu d'amour, quoi. Il y a un peu d'amour pour les gens qui nous ont précédés, qui nous inspirent. Il y a l'envie, en fait, de partager ça. Donc, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, et répondre à ta question, tu parlais de ce que proposent ces mémoires qui convergent. Selon les âges, quand c'est avec les parents, effectivement, donc c'est surtout des mères de famille qui fréquentent l'atelier, mais c'est pas exclu qu'il y ait aussi des pères. C'est l'occasion, en fait, le cinéma, c'est des films courts qu'on regarde. Des films qui font 10, 15, allez, 30 minutes. De temps en temps, un format un peu long. Mais l'idée, c'est d'avoir un temps de visionnage et un temps de discussion. Et par les films qu'on choisit, en fait aussi par les intérêts des participantes, on se retrouve à très vite être dans la confidence, en fait, où chacun va parler de pourquoi le film il l'a touché ou veut réagir sur des choses et se retrouve à un peu se livrer. Donc ça permet de, voilà, c'est pas que des mémoires qui convergent, c'est aussi des vécus, C'est des histoires, voilà, exactement. Donc on a vu que, par exemple, en choisissant un film en kurde récemment dans l'atelier, ça a permis à toute une partie aussi des nouvelles personnes qui avaient rejoint le groupe de parler de leur histoire. Et là, ça faisait écho à plein d'autres histoires. Enfin, on touche du doigt l'universel, la résistance. C'était très fort. En fait, c'était très fort parce que c'est aussi des personnes qui... Parce que parfois, ils ne maîtrisent pas encore bien la langue dans laquelle on s'exprime. On a moins l'occasion de les écouter. Et puis d'un coup, avec le film, il y a l'envie, il y a quelque chose qui bouge et on s'écoute davantage. Et puis tu dis, waouh, je ne la regarderai plus jamais de la même façon. Cette personne, elle nous a témoigné d'une telle histoire de vie incroyable. Donc ça, au niveau des grands. Et puis pour les enfants, Samy intervient plus à l'école primaire. Et de mon côté, c'est plutôt des collégiens. Et en fait, que y ait les professeurs ou pas les professeurs, ça, c'est très variable selon... C'est un outil qu'on peut utiliser de plein de façons. Mais ce que je constate, c'est que y a beaucoup de surprises. Et il y a souvent aussi parfois de la gêne ou de la timidité, parce que c'est une langue qui reste souvent confinée à une sphère intime, voire liée à des souvenirs. Parfois, c'est la langue, même pas avec les parents, mais c'est la langue des grands-parents, c'est la langue de l'enfance, c'est la langue lointaine. Donc je vois souvent du trouble, parce que c'est une langue qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de trouver dans leur à l'école. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, arabe traité comme une langue rare, alors que c'est la deuxième langue parlée dans ce pays. Mais du coup, il y a toujours ce moment de flottement. Et en gros, quand même, après la timidité, après la gêne ou la surprise, il y a quand même beaucoup d'engouement. Et c'est ce dont a parlé Samy aussi. Et toi-même, Jean-Marc, quand tu rappelais la restitution qu'on a fait à l'espace culturel de la Busserine, c'était hyper joyeux. Et c'était avant le goûter. Non, je dis ça parce qu'il y a le sucre qui génère beaucoup de joie. Mais là, c'était avant qu'on prenne le goûter.
Disons que l'intérêt pour ma part de telles actions, c'est que cela permet de la rencontre, l'échange et de découvrir l'autre. Sachant que c'est un quartier tel que celui du Grand Saint-Barthélemy, plutôt ce territoire, il y a beaucoup de nouvelles migrations qui arrivent et pas forcément elles arrivent à se rencontrer et pouvoir échanger, se découvrir mutuellement. Alors que l'intérêt pour ma part, c'est que l'on puisse prendre conscience que probablement ces différentes personnes issues de diverses migrations ne seront probablement pas amenées à retourner dans leur pays d'origine. Que lorsqu'elles arrivent, elles viennent avec toute leur culture, leur dieu, leur croyance, etc. Et qu'à un moment donné, elles seront définitivement ici. C'est ce qu'il faut que les gens du gouvernement aussi, des différentes politiques, puissent entendre et comprendre. Et que l'union de ces personnes, de ces rencontres, doit favoriser aussi la création d'une communauté de destin. C'est que l'on n'a plus de choix, on est là, on doit vivre ici, on doit défendre un intérêt collectif plutôt que de celle d'une communauté ou autre. C'est ce que je voudrais dire et que je trouve que c'est intéressant, ce travail que vous pouvez fournir aussi dans les quartiers. Nous arrivons presque au terme de l'émission, n'est-ce
pas ? Non, on est arrivé au terme de l'émission, Jean-Marc. Donc Charlotte, ouais. Samy, merci d'être venu encore une fois nous rencontrer. Ça, c'est les mots de Jean-Marc. Le cinéma arabe est bien vivant et grâce à vos actions dans les quartiers, il devient aussi un moteur de changement. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau regard.
Merci, au revoir.
Eh bien, ouais, nous avons encore beaucoup de questions, mais ça sera l'occasion d'une autre émission.
Parce que je pense que je vais enchaîner sur les communiqués de presse. Voilà. Après, si dit, je ferai une pause musicale qui sera à la fin de l'émission. C'est-à-dire que tu vas sauter un morceau de musique. Tu choisiras.
Voilà. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup.
Mais là, la musique est lancée, là, non ?
Non, pas du tout. On est en train de dérouler, là. C'est pas grave, Sidi, c'est pas grave, Sidi.
Calogero, Aliano.
Non, mais si tu mets Calogero, tu n'auras pas de communiqué de presse.
Bon, alors, comme vous voulez.
Vas-y, mets Calogero.
Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin, c'est mon pote, on est inséparables. J'ai un job Et c'est parce qu'ils étaient là un jour au mauvais endroit, qu'ailleurs ici ou là-bas, pour nos frères plus jamais ça.
En direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy pour la dernière partie qui correspond au communiqué de presse. Donc, c'est une actualité qui concerne le ZEF, la scène nationale, dont le numéro de téléphone est le 04 91 11 19 20. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était noté, mais je l'ai lu. Donc, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que mardi 17 juin, à 19h, aura lieu Chant d'exil, un concert pour chœur d'enfants et orchestre avec le chœur, la maîtrise et l'orchestre à l'école de la Busserine, le club orchestre avec l'ensemble Sébaré et les compositeurs Amine Soufari et Mehdi Telaoui. Une véritable émulation musicale anime le 14e arrondissement de Marseille depuis sa création au mois d'octobre. Le club orchestre, conçu main dans la main par le ZEF et l'ensemble Sébaré, a rejoint le nouveau cycle de la maîtrise du chœur et de l'orchestre de l'école Busserine. Ces quatre groupes sont ici réunis pour leur tout premier concert. Ils donneront de la voix, feront sonner mandoline, percussion et violoncelle à travers de nouvelles œuvres spécialement commandées pour eux et aux compositeurs. Oh, Jean-Marc, tu as oublié des mots. Ouais. Pour eux, aux compositeurs Amine Soufari et Mehdi Telaoui. Il y a également une autre actualité, mais qui concerne cette fois-ci le festival Oh les beaux jours, dont les responsables. Jean-Marc.
Pourraient participer.
Bon, c'est des messages que fait passer mon frère, ce sont des messages subliminaux, dont les responsables pourraient participer aux Échos du Grand Saint-Barthélemy, d'autant qu'ils mènent des actions aussi dans les quartiers, en partenariat avec des structures locales. Donc, oui, si vous écoutez l'émission, les responsables des Beaux Jours, contactez Jean-Marc.
Non, mais ils le savent déjà, donc ils seraient OK pour pouvoir participer à une émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy.
Donc, on ne fait passer aucun message.
Je rappelle que nous avons comme objet social la lutte contre l'illettrisme, où les Beaux Jours, c'est tout le festival autour de la littérature et autres. Entre autres, il me semble, de mémoire, je peux citer que le 30 juin, il y aurait Barbara Hendricks et Christiane Taubira qui seront présentes plus exactement. Il y a un auteur que nous aimons bien, Daniel Pena, qui sera présent. Et si nous nous organisons bien, nous pourrions le rencontrer aussi. Donc il faut que nous puissions voir un peu. Oui, la traîne noire, la nouvelle, ouais. Tout à fait. Donc voilà, il y a une pléthore d'écrivains, d'actions, dans différents lieux aussi, comme un peu plus qu'à Flamme, au regard de l'impact qu'ils ont, que ce soit la bibliothèque, que l'Alcazar, que ce soit le MUSEM, que la CRIE, etc., etc., avec des interventions aussi, des engagements qu'ils ont de leur côté, qui seraient, par exemple, soutenir SOS Méditerranée, entre autres.
Bon, voilà. Comme Jean-Marc a fait de l'œil à Olé Beaujour, il n'y a plus de temps pour parler de l'actualité de Transit Librairie.
Oh, désolé. Non, allons. Demande à Sidi.
Dis-le vite.
Alors, je vais lire très rapidement. Alors, soirée du 7 juin à 21h, c'est l'initiation à la DAPKE avec Dima. La DAPKE est devenue un appel cérémonial à la libération indigène contre le colonialisme du peuplement. C'est ce que vous me demandez de dire rapidement, moi je bug. Hein. Les mouvements physiques dynamiques de la DAPKE offrent une fluidité irrésistible au contrôle incarné et aux restrictions imposées par les occupants. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre une danse, c'est un appel à l'action. En participant, vous contribuez à déployer la culture et le patrimoine palestinien. La protestation est l'action directe incarnant la résistance contre les systèmes de pression et de colonisation, promouvoir la justice par les Palestiniens et faire vivre une culture réprimée depuis des décennies et menacée de disparition. Je passe à l'autre actualité de Transit Librairie. Celle-ci a lieu le 9 juin à 19h. À cette occasion, il sera présenté les projets en cours dans quelques pays partenaires, notamment le festival culturel itinérant qui aura lieu cet été au Liban et le soutien au réseau de bibliothèques du Laos. toujours à Transit, décidément Transit a une actualité assez florissante en ce mois de juin. Le 19 juin, rencontre avec Seth Holmes autour de son ouvrage « Fruits frais, corps brisé » à 19h. Et je rappelle que la librairie Transit se trouve 45 boulevard de la Libération dans le 1er arrondissement de Marseille.
Nous rappelons que les Échos du Grand Saint-Barthélemy sont soutenus par la politique de la ville, n'est-ce pas ?
Et nous les remercions énormément pour ça.
État,
métropole et département.
Voilà. Et nous espérons vous retrouver au mois de juin. Et le mois de juin, nous devrions recevoir les jeunes des collectifs des jeunes de Bisserine afin de nous entretenir avec eux, voir un peu cette nouvelle dynamique qu'ils essaient de relancer à nouveau après un temps de comment pourrions-nous dire ?
Ils étaient en jachère, ils étaient en train de préparer de nouveaux projets qu'ils vont nous présenter.
Voilà. Tout à fait. En hibernation, oui, voilà. Donc, ça nous semble être intéressant d'essayer de raviver un peu cette flamme qui anime les jeunes de Grand Saint-Barthélemy et notamment ceux de la Bisserine.
Merci beaucoup. On se quitte avec le dernier morceau. Attention, Sidi, hein. J'ai sauté un morceau. Voilà, exactement. I am petit frère.
Voilà.
Devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringue et de thune, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les temps ont changé.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, de la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais on parlait au journal, tous les soirs ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani.
Birmanie, soucieux du regard des gens. Malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuvre et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des portes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,